dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue?
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain?
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la pression de l'échéance, de la deadline, agit-elle sur l'inventivité et la créativité, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Peut-on être créatif quand les pressions externes sont fortes ? Aujourd'hui, la question est posée à la fois dans le monde artistique, mais aussi dans les organisations en général. Quel serait un raisonnement pragmatique sur l'achèvement ? Pourquoi Picasso se faisait-il filmer ? Et qu'est-ce qu'être rincé par l'achèvement d'une œuvre ? Directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger achève aujourd'hui sa grande exploration du travail et du processus de création dans le cadre de sa série intitulée « Comment achever une œuvre ?». Il nous livre ses conclusions provisoires, cette grande enquête étant promise à une suite. Comment les créateurs traitent-ils de la valeur d'achèvement et de l'élasticité de ces usages dans la création artistique, s'interroge-t-il encore aujourd'hui ? En fin de cours, le sociologue nous livre un passionnant échantillon de réponses à la question « Quand sais-tu qu'une œuvre est achevée ? Question qui a été posée dans une série d'entretiens menés par les écrivains Colline Pierret et Martin Page avec 31 artistes, majoritairement écrivains, et qui sont recueillis dans le livre intitulé « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» Mais pour l'heure, nous retrouvons tout de suite son analyse de la sociologie processuelle du temps. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 5 avril 2019 pour le cours de Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, processus, typologie et cas, conclusion provisoire.
Le premier usage du temps dans l'accomplissement, ce temps d'accomplissement, c'est donc celui du moment présent qui est inscrit dans un temps duré, qui est éventuellement dilatable, dans lequel on agit et on avance, mais sans se laisser tyranniser ou contrôler par le terme. Et il a reçu une définition, une qualification, une caractérisation dans un travail qui est célèbre d'un psychologue dont j'ai déjà cité le nom complexe, mais une fois qu'on l'a mémorisé, ce n'est pas un problème, qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi. Et le livre s'intitule « Flow ». En psychologie, le « flow », c'est lui qui a contribué à populariser cette notion, qui a donné lieu à des masses de travaux plus ou moins sérieux, certains très sérieux, pour corroborer ou discuter l'hypothèse, d'autres de littérature, de conseils ou de bien-être, comment atteindre le flow chez vous à tout instant, etc., comment démocratiser l'expérience du flow, enfin bon, les Américains aiment beaucoup ce genre d'utilisation de la recherche. Et en psychologie, le flow, c'est l'état mental d'une personne quand elle est immergée dans une activité qui l'absorbe complètement et elle se trouve donc en état optimal ou maximal de concentration, de plein engagement dans le travail et de satisfaction à exercer le travail de cette manière. Et alors, il y a toute une série de caractéristiques ou de conditions qui sont présentes. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est un des points que discute notamment Abbott dans son chapitre 6 de son livre « Processual Sociology ». Il prend l'exemple du flow pour insister sur qu'est-ce que ça veut dire de contraindre la sociologie à aller regarder le moment présent. D'habitude, en sociologie, on peut dire « vos origines sociales vous prédestinent à telle ou telle trajectoire dans le monde » ou une fois que je sais d'où vous venez, quelles études vous avez faites et éventuellement quelles sont vos préférences, je peux décrire avec une probabilité non nulle la trajectoire qui sera la vôtre dans le temps qui vient. Ça, c'est ce qu'on appelle le General Linear Model, le modèle linéaire général où les sociologues qui font de la macro-sociologie pratiquent ça en termes de chances de mobilité sociale, de destin scolaire, etc., etc. Et toute cette architecture est liée à, une, en quelque sorte, une annulation du temps. C'est un temps de série B, si vous voulez. Ce n'est pas pour décrier le travail de ses collègues, mais, puisque j'en fais aussi, mais de série MacTaggart B. Bon. Et Abbott, lui, il veut connaître ce qu'est la substance de la série A. Et pour ça, il faut aller regarder ce qu'il y a dans le présent. Et est-ce que ça a un sens de creuser cette idée du présent ? Et il se sert précisément de cet article de Mihai Csikszentmihalyi, j'adore maintenant le prononcer ce nom, qui s'appelle « Flow, the psychology of optimal experience ». Et ce que dit le texte, c'est il énonce donc ses conditions. Il en distingue 8. Il a un peu modifié son système après, mais en gros, c'est ça qui tient la route. L'expérience, donc, il faut d'abord qu'elle puisse indiquer que on a une chance de l'achever. Donc, ça figure bien, dans, en quelque sorte, en harmonie avec ce que je cherche, moi, à comprendre dans ce cours. Autrement dit, la tâche et ses exigences doivent être assorties aux capacités de l'individu. Si la tâche est trop simple, elle sera évidemment ennuyeuse. Ou alors, si elle est trop difficile, ou si, par exemple, aux échecs, c'est un des exemples que cite, il en cite plusieurs tout le temps, Mihai, Csikszentmihalyi, c'est les échecs, l'escalade ou les arts. Mais par exemple, aux échecs, si votre adversaire est trop fort, eh bien, l'anxiété et le découragement vont s'installer. Autrement dit, vos qualités à vous ne suffisent pas pour vous placer dans une situation d'expansion bénéfique du temps et de la concentration. C'est déjà joué d'avance, votre concentration ne vous servira pas à grand-chose. Donc, il faut un bon équilibre entre les défis posés par l'activité et les compétences dont on sait qu'on dispose ou dont on pense qu'on dispose pour que se réalise cette situation du flow. Et c'est à cette condition qu'on peut achever la tâche, mais aussi l'achever dans cette condition d'immersion productive. Ensuite, il faut que on soit capable de se concentrer sur ce qu'on fait. Et cette idée, c'est celle, en quelque sorte, d'une immersion telle que on cesse d'avoir une conscience de séparation entre ce qu'on est et ce qu'on fait. On est intégralement immergé dans ce qu'on est en train de faire. Le danseur, comme le dit Csikszentmihalyi, le danseur qui est concentré sur le mouvement qu'il doit faire ou la figure qu'il doit réaliser, qui est complexe, c'est un art extraordinaire, tout de même, mémoriser dans une chorégraphie tous les gestes qu'on doit réaliser, toutes les figures qu'on doit réaliser sur une heure trente ou plus dans un ballet. Évidemment, c'est à la fois la mémoire du corps, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne à condition que vous soyez totalement et vraiment concentré. Ou alors le grimpeur qui ne fait qu'un avec son rocher, qui en quelque sorte se débarrasse d'une sorte de réflexivité encombrante. Est-ce que je suis bien en train de faire ce qu'il faut ? Bien sûr qu'il faut se concentrer là-dessus, mais à un moment donné, il faut se libérer de la réflexivité trop métronomique. Le troisième point, c'est il faut qu'il y ait des buts qui soient assez clairs. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ? Et aussi, quels sont les retours que je vais avoir, les feedbacks ? Donc, est-ce que la progression que je réalise dans mon travail, elle correspond effectivement à quelque chose que je souhaite faire et aussi aux échanges que je peux recevoir sur la manière dont je le réalise et pour réajuster éventuellement ce que je suis en train de faire en permanence. Autrement dit, on n'est pas non plus simplement dans une sorte de bulle, mais on intègre le feedback. Les actions en question supposent ça. Les tâches qu'on doit réaliser supposent de pouvoir bénéficier de ça. Alors, il ajoute que on oublie à travers ce genre d'expérience le reste du monde, les soucis, les frustrations de la vie quotidienne, une sorte de construction d'un monde particulier. C'est pour ça qu'on peut parler de présentisme, si vous voulez, une sorte de dilatation du temps dans ce moment-là qui met à l'écart les autres temps du monde. Il y a l'idée que ça permet d'avoir un sentiment de contrôle sur son travail. C'est un motif qui est très présent, vous vous souvenez, dans ce que j'ai dit sur la valorisation du travail, à quelles conditions est-elle possible. Il faut évidemment avoir le sentiment qu'on contrôle son action et qu'on le contrôle dans un schéma, qu'on ait une idée d'un arc intentionnel complet sur l'activité, même si on ne peut pas la contrôler intégralement à chaque instant, mais qu'on ait le sentiment d'être en contrôle de son activité. Il y a l'idée que le soi doit, d'une certaine manière, se mettre en retrait. C'est ce qu'on dit souvent, par exemple, dans le sport, si vous réfléchissez trop à vos coups, vous allez rater. Il faut lâcher prise, d'une certaine manière, se libérer de calculs trop instrumentaux ou trop utilitaires. Il faut que ça se fasse dans un flux continuel dans lequel l'image de soi se met en retrait. C'est d'ailleurs cette affaire-là, c'est ce qui vous explique en partie pourquoi les artistes, et pour citer encore Picasso, cherchent à comprendre comment ils travaillent. Picasso voulait qu'on le filme pour savoir ce qui se passait. Et précisément parce que il contrôle son processus de travail, mais il ne peut pas contrôler la manière dont son moi, son self, en quelque sorte, fonctionne. Et il vaut mieux qu'il ne le contrôle pas. Sinon, il ne se procurera pas les bénéfices de cette situation de flow. Et enfin, il y a l'idée que, et je l'ai déjà dit, la durée du temps est modifiée. Les heures peuvent se transformer en minutes et les minutes peuvent s'allonger comme des heures. C'est une expérience que vous faites qui est facile à comprendre parce que nous faisons tous ce type d'expérience une fois que nous sommes totalement immergés dans quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Nous pouvons retenir que le temps tel que je l'ai exploré, le temps du travail à même une œuvre, il peut s'approcher, au moins par séquence, de ce temps architectonique et immersif, ou de complétude ensembliste, si vous voulez. Alors, évidemment, c'est ce que recherche l'artiste par instant et par moment, et dans ce présent dense. Mais alors, comment cette qualité de flow ou de présentisme peut-elle s'insérer dans un temps chronométrique ou calendaire ? Si vous pensez que vos minutes vont durer des heures, autour de vous, les heures sont les heures, et les minutes sont les minutes, et les jours sont les jours. Et donc, il y a un rappel au réel. Comment réunir les deux temps ? Que produit donc le repère de la butée temporelle dont j'ai parlé, qui est nécessaire, de la deadline dans le travail ? Qu'est-ce qu'il produit sur le temps de ce moment présent ? Au lieu de vous mettre dans un présent qui se déploie, le temps de la deadline, il fait l'inverse. Il vous place à la fin, il vous dit maintenant le compte à rebours doit commencer. Donc il vous rétro-projette dans le temps. Alors que vous, dans votre expérience du temps, du moment présent, vous avancez d'une manière substantiellement complexe, mais avec un sentiment d'avancer et non pas d'être contraint par le terme de manière stricte. Le problème que je dois traiter, c'est donc de savoir si la pression de la butée finale, de la deadline, va agir et comment elle va agir sur la substance du moment et de la créativité que permet le moment présent. Autrement dit, comment est-ce que je vais composer les différents temps ? Comment est-ce que le temps événement va entrer en association ou en conflit avec le temps chronométrique ? Et qu'est-ce que nous dit la recherche à ce sujet ? C'est un argument qui a été exploré notamment en psychologie de la créativité. La psychologie de la créativité dit ceci, nous pouvons très bien trouver de bonnes idées et avancer dans un travail sous la contrainte d'une deadline, mais le coût potentiel de l'organisation du travail en fonction de cette butée, c'est qu'il risque d'affaiblir la valeur d'originalité de ces idées. Si vous êtes obsédé par la deadline, peut-être que vous allez en quelque sorte crisper votre potentiel d'originalité et évidemment vous gagnerez en efficacité, vous respecterez les délais, mais peut-être que vous allez perdre ce qui fait la substance du moment présent. Alors, la relation entre le temps de création que suscitent les expériences immersives et le temps du monde social, celui des contraintes organisationnelles, des deadlines, etc., pose ce problème classique. Peut-on être inventif quand les pressions externes sont fortes ? Je vous présente ici un travail qui a été réalisé par des chercheurs de l'Université de Harvard et des collaborateurs. La psychologue qui est l'une des co-auteurs de ce travail, c'est Teresa Amabile, qui est professeure à Harvard, avec deux auteurs, Constance Hadley et Stephen Kramer. Et l'article s'appelle « Creativity under the gun », donc sous le pistolet de la deadline. Et ce travail se fonde sur des analyses de cas, de projets qui ont été menés au sein d'organisations. Donc dans un cadre qui ne correspond que partiellement à celui des arts, mais les arguments sont intéressants à étudier. Et après tout, les arts ne sont pas du tout dépourvus d'organisations. Il y a des maisons de production de films, des entreprises de jeux vidéo, des maisons d'édition, des instituts de recherche où coexistent des gens qui travaillent à des rythmes et selon des procédures différentes et qui peuvent être sujets à des deadlines, ou bien une maison d'opéra ou un centre d'art contemporain qui invite un créateur en résidence, etc. Donc on a aussi des organisations. Mais le travail de Teresa Amabile, c'est une psychologue de la créativité qui est très connue avec quelques autres auteurs du domaine. Je peux citer Robert Sternberg ou Dean Simonton ou bien encore Todd Lebart. Et donc, comment est-ce qu'elle a travaillé? Elle a enquêté avec ses collaborateurs sur auprès de 177 salariés de 7 entreprises américaines dans 3 secteurs industriels, la chimie, la high-tech et la production de produits de grande consommation, mais dans lesquels on cherche à innover aussi. Et ces salariés étaient impliqués dans 22 équipes projets dans lesquelles la créativité était tenue par le chef de projet pour absolument indispensable et possible. Donc ce sont des gens qui travaillent dans des équipes pour produire des produits nouveaux, chercher des idées nouvelles, etc. Ce sont des équipes projets autour de projets créateurs. En d'autres termes, les projets et les membres sont tenus par l'entreprise pour la force créative vitale de ces entreprises. C'est ça le point. Donc on est sur une zone de recherche qui concerne cet exercice de la créativité. On demande aux gens qui font partie de ces groupes d'être créatifs. Et le dispositif original de cette recherche, c'est que on enquêtait sur la base d'un questionnaire. On ne va pas évidemment demander aux gens « est-ce que vous êtes créatif ou pas ?» Malheureusement, la tendance aujourd'hui de beaucoup d'enquêtes d'opinion, « est-ce que vous préférez moins d'impôts ?» Enfin bon, des questions aussi absurdes que ça. C'est un des drames de l'envahissement de l'espace public par des sondages. La sociologie a beaucoup à dire là-dessus depuis bien longtemps, et depuis aussi un article fameux de Bourdieu qui s'appelait « L'opinion publique n'existe pas ». Ici, l'enquête procède selon le protocole suivant. Chacun des individus qui ont été enquêtés, les 177, remplit un questionnaire à la fin de chaque journée de travail, tout au long de la durée du projet. Et une des questions concerne l'évaluation qu'ils faisaient de la pression au travail ressentie chaque jour. C'est l'inverse des enquêtes sur les conditions de travail qui interrogent les gens à un moment donné sur leur ressenti de ce qu'est leur condition de travail. Ici, on les suit jour par jour. C'est une toute autre procédure. Et on leur demande donc d'évaluer la pression ressentie sur une échelle de mesure. Il faut définir une métrique, évidemment. Une autre question porte sur l'évaluation qu'ils font du caractère créatif ou non de leur journée de travail. Et là, si vous réduisez l'espace d'interrogation, vous pouvez admettre que les individus peuvent avoir une conscience plus aiguë de ce qu'ils ont pu trouver dans une journée, parce que la mémorisation est plus dense et que la variabilité des journées leur permet d'avoir une idée plus précise du relief qu'ont pu avoir telle ou telle journée en ces termes-là, d'estimer une créativité. Mais ça ne suffisait pas, et c'est ça qui est malin aussi dans l'enquête. Il était demandé à chaque enquêté de décrire dans un journal de travail quotidien un événement dont il gardait la mémoire et qui était un événement relié au projet, à l'équipe ou à leur travail. Et donc le matériau d'enquête comprenait à la fois des évaluations par les individus qui sont consignés dans leur rapport journalier, mais aussi des éléments de récit. Et c'est toute cette matière qui a été analysée. Et donc les enquêteurs et les chercheurs ont codé toute cette substance des réponses journalières et des informations liées au récit d'activité sur les expériences de travail. Et à partir de là, on a construit une mesure de pensée créative, si vous voulez, de creative thinking. Un journal d'activité était considéré comme révélant du creative thinking si les récits journaliers comportaient mention de termes tels que découverte, brainstorming, production d'idées, souplesse de pensée ou de raisonnement, etc. Et toute la sémantique des processus cognitifs qui sont réputés faciliter ce type de creative thinking, c'est-à-dire apprentissage, intuition, prise de conscience, conscience, clarification, remémoration, concentration. Si ces termes et cette sémantique apparaissent, alors ça déclenche un code et une information codable. Et en outre, pour analyser la pression temporelle au travail dans les projets, les chercheurs ont utilisé les évaluations numériques de leur activité, le nombre d'heures travaillées, évidemment, le degré de challenge, l'implication, la pression temporelle, mais cette fois-ci à la fois ressentie et chronométrique, le nombre de personnes avec qui travaille l'individu et le degré de distraction, c'est-à-dire de multiples tâches qui viennent interrompre, ou rendez-vous, meetings, réunions qui viennent interrompre le travail. L'ensemble des informations qui ont été ainsi exploitées a engendré cette matrice. Encore une fois, on ne distribue pas les individus dans cette matrice, on distribue des journées de travail. Et le tableau décrit quatre conditions extrêmes. Les journées à forte pression temporelle et qui comportent des épisodes creative thinking suffisamment nombreux pour que les deux variables de time pressure et likelihood of creative thinking, la probabilité d'être créatif et la pression du temps. Donc ici, on a à la fois une pression temporelle élevée et néanmoins de la pensée créatrice. C'est probablement la situation la plus improbable et néanmoins elle est observée. Parce que si on suit les théories de la créativité, la pression devrait vous inhiber. Et là, pourtant, et on va voir comment, elle ne le fait pas, au contraire. Ici, on est dans la situation où on a des journées avec moins de pression et une forte probabilité d'être créatif. Ça correspond à un peu plus à ce que j'appelais peut-être cette souplesse nécessaire pour déployer son inventivité. Il y a aussi, ici vous êtes peu créatif, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais après tout on peut ne pas l'être, et vous avez peu de pression, et là vous avez beaucoup de pression, mais vous n'êtes pas créatif, pression temporelle. Donc le problème qui est cerné dans ce tableau concerne non pas la quantité d'efforts, sauf peut-être dans le cadran inférieur, peu de créativité, peu de pression. Pression, c'est celle de devoir achever quelque chose dans un certain délai, je précise. Et il est admis ici, comme un argument implicite, que la créativité est fortement couplée à un travail intensif, un travail, je veux dire, intense, pas sous pression, mais intense, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. La question de savoir si on travaille sous pression d'un délai, c'est une autre question, mais on travaille beaucoup, ce sont des individus qui travaillent beaucoup. C'est l'implicite, c'est admis. On est dans des situations à forte intensité d'activité. Ensuite, comment est-ce qu'elles sont organisées? C'est ça qu'on va creuser. Et cette intensité d'activité, c'est aussi un des prérequis classiques du raisonnement qui dit la créativité est associée à l'intensité de travail. La deadline, encore une fois, c'est autre chose. L'intensité de travail, elle est là. C'est tous les arguments populaires qui ont été donnés par les artistes ou les inventeurs eux-mêmes qui disent ma découverte, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Vous connaissez ça. Mais ils insistent toujours, ces auteurs de découverte ou d'invention ou d'œuvre magistrale, sur le 99% de transpiration ou 80% de transpiration. Autrement dit, on sait qu'on doit travailler beaucoup. Et vous avez vu, d'après les données que je vous ai présentées antérieurement, que ça n'est pas une simple représentation subjective, mais c'est une réalité. Vous pouvez changer le 1% et 99%, mais le problème reste toujours le même. Teresa Amabile a interviewé longuement John Irving, un romancier fameux, ou connu en tout cas, et elle cite ses propos, il dit « Ma réussite, c'est 1/8 de talent et 7/8 de discipline. » Et il décrit comme ça ses débuts d'écrivain. « Je réécrivais tout et je commençais à prendre au sérieux mon manque de talent. » Autrement dit, le fait que ça n'est pas 100% de talent et que je m'apercevais que si je réécrivais tout, c'est que probablement j'étais en train de réaliser que c'était 8/10 de travail et 2/10 d'autre chose. Mais de quoi exactement on ne peut pas le savoir si on ne travaille pas. C'est ça l'argument. L'information sur ce dont vous êtes capable et si éventuellement vous en avez les qualités, elle vient comme un produit dérivé de l'intensité de travail. C'est ce genre de raisonnement que j'aime bien et que fait magistralement Jon Elster. Donc, ici, c'est la pression du délai. Et selon les résultats de l'enquête des auteurs, l'argument général, c'est plus la pression temporelle ressentie par les individus dans une journée est forte, plus la probabilité de déployer des idées ou des solutions créatives diminue. Ça, c'est le résultat d'ensemble. C'est dans ces résultats d'ensemble qu'on va distribuer ces situations-là. Mais la corrélation d'ensemble, c'est celle-là. C'est un résultat qui est classique. D'une manière générale, toutes choses égales par ailleurs, si la pression est trop forte, je vais diminuer mes chances d'être inventif ou créatif. Je passe sur les détails des explications de ce phénomène. Mais les auteurs de l'enquête ont montré aussi d'ailleurs que ce qui est rapporté comme des moments de créativité ne constitue que 5% des 9000 rapports journaliers qu'ils ont récupérés. Donc, le fait d'être créatif est un fait assez rare. Et donc, Le problème, c'est de savoir comment le comprendre. On sait que la pression temporelle, d'une manière générale, n'est pas favorable à ça. Et néanmoins, il y a des situations, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et le cadran supérieur droit, c'est ce que les auteurs appellent être en mission. C'est un comportement. Vous êtes à la fois sous pression et capable d'inventer. Et il existe donc des situations où on peut avoir des idées très ingénieuses, malgré des contraintes très fortes de temps. Et les observations et les témoignages montrent que ces conditions de travail sont assez rarement réunies, mais quand elles sont réunies, ça veut dire qu'on est capable d'obtenir une concentration d'attention très élevée, mais sur une seule activité et pendant une portion significative d'une journée. Autrement dit, la situation de concentration qui est décrite à travers ça, c'est qu'il faut pouvoir, de haute lutte, se mettre en quelque sorte en retrait d'un engrenage de situations de travail, de réunions, d'interruptions, etc. Et qu'il faut pouvoir protéger une plage de temps. Vous me direz que c'est un résultat assez banal, mais dans une organisation, construire ça, ça n'est pas si simple, surtout étant donné l'enchevêtrement des temporalités de chacun. Et dans une organisation, il faut donc pouvoir s'isoler. Et ça se mesure. Par exemple, les chercheurs ont mesuré que dans cette situation, dans cette journée, puisque c'est l'unité de mesure, les collaborations étaient plus limitées avec d'autres, ou les interactions avec d'autres. Et par exemple, elles étaient essentiellement réduites à un ou deux échanges avec une ou deux personnes plutôt qu'avec un groupe entier. L'autre condition pour se placer ici, qui est la situation à la fois la plus improbable et certainement celle aussi qui correspond à cette collision de temporalité qui est inévitable d'une certaine manière dans une organisation. À un moment donné, il faut bien sortir le produit ou l'invention ou l'œuvre. L'autre condition, c'est de pouvoir interpréter la pression temporelle comme une urgence qui ait du sens et pas comme une sorte d'exercice arbitraire de l'imposition d'une deadline. Les individus comprennent pourquoi résoudre le problème ou achever la tâche est crucial. Et donc l'urgence est alors vécue comme si on se sent, c'est pour ça qu'il l'appelle ainsi, en mission. On s'implique et on se sent mis au défi par le travail, mais pas de manière hostile, mais de manière positive. Si on pense que son travail est d'une importance vitale, on oubliera plus facilement, évidemment, les distractions et on cherchera plus facilement à faire admettre qu'il faut se libérer de tâches secondaires et que le management est prié de vous aider à ça. Ce cadran-là, c'est celui de ce qu'ils appellent être en expédition, des comportements de travail dans des journées moins pressantes, mais où les individus explorent, produisent des idées nouvelles et ont moins le sentiment qu'ils doivent trouver la solution absolument ce jour-là pour avancer. C'est un temps de plus grande liberté d'exploration.
Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minger, Comment achever une œuvre, aujourd'hui, processus, typologie et cas, conclusion provisoire.
Le temps qui est ici, c'est celui de l'engrenage, du treadmill ou du tapis roulant, si vous voulez. Il y a une forte pression temporelle et une faible probabilité de créativité. Les journées qui correspondent à ça Ce sont des journées qui sont décrites dans les carnets de travail comme étant des journées en quelque sorte hachées par une multiplicité de tâches qui orientent l'attention dans toutes sortes de directions et qui vous distraient et qui vous contraignent en quelque sorte à vous démultiplier et qui vous empêchent de vous concentrer sérieusement sur une seule activité pendant un laps de temps significatif. Comme disait un des enquêtés, plus je cours vite, plus je prends de retard. C'est une jolie formule. Et ça, c'est typiquement l'expression du sentiment de frustration que crée cette pression dispersante, en quelque sorte, surtout dans des équipes qui sont sollicitées pour exercer leur créativité. Et le dernier cadran, les auteurs l'appellent le pilotage automatique, autopilot. C'est une faible pression temporelle avec une faible probabilité de créativité. Alors, on peut dire que peut-être c'est une manière de dire... Bon, les gens, ils vont cool, mettent un pied devant l'autre, ils ne s'engagent pas beaucoup dans ce qu'ils font, ils ne sont pas très stimulés, etc., etc. Ou alors, et ça c'est le point intéressant, c'est des situations où les individus sont encouragés ou s'encouragent eux-mêmes à apprendre, à se former, à ruminer sur quelque chose de nouveau. Donc, ça ne produit pas grand-chose en termes d'indice de créativité, mais la pression temporelle n'est pas si forte. Mais ça peut avoir un bénéfice à plus long terme. Et ça existe aujourd'hui beaucoup dans des entreprises qui veulent attirer les talents, comme on dit, Google et d'autres, qui disent « Venez chez nous, on vous donnera 20% de votre temps pour faire ce que vous voulez sur des projets qui vous importent. » Et donc, ça fait partie du contrat. Les 80%, on vous mettra dans les autres situations, mais pour 20%, on vous donnera ça. Donc, l'équation, c'est on vous offre ça aussi, les 20%. Et en fait, c'est une vieille affaire. Une entreprise comme 3M, vous savez, celle qui produit le scotch ou les post-it, mais qui a été très inventive, qui a déposé des milliers de brevets avant de se diversifier dans toutes sortes de directions. Cette entreprise avait offert, il y a déjà des décennies, à ses ingénieurs et ses chercheurs en R&D 15% de leur temps de travail hebdomadaire pour mener les initiatives qu'ils voulaient, travailler sur ce qui leur plaisait, leurs projets favoris, le pet project, comme on dit, tout ce qui les intriguait, même si c'était très éloigné de leurs tâches habituelles. Donc, les résultats sont assez réalistes. C'est pas simplement une reconstruction un peu modélisante, un peu comme ça. Non, c'est réaliste, cette affaire. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? On peut en tirer quatre leçons. On est plus créatif quand on travaille sous une pression temporelle faible. Ça, c'est une sorte de loi générale. Mais il y a une complémentarité dans les activités à la frontière. Pour emprunter un mot qui circule beaucoup aujourd'hui en économie, les innovations à la frontière, ce qui se rapproche de la rupture et qui ne sont pas simplement des incrémentations ou une extrapolation du présent pour augmenter un tout petit peu les choses, la nouveauté étant juste incrémentale. Ici, on est à la frontière. Quand on est à la frontière, c'est plutôt le cas dans les situations du cadran supérieur droit, celui-là. On se place plutôt à la frontière parce que l'activité est plus difficile. Et que donc, le management s'impatiente en disant « Bon, alors, quand est-ce que ça vient, ce résultat ?» Mais ce résultat ne vient pas si facilement parce que, précisément, l'activité est plutôt à la frontière. Il faut un peu casser les codes. On est à la frontière. Et dans ce cas-là, il y a une valeur stimulante de la difficulté, mais sous certaines conditions, encore une fois. En tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que l'idéal, c'est toujours d'avoir plus d'espace et de temps pour déployer son inventivité, et on a vu qu'il y a des cadrans qui correspondent à ça, mais il se trouve que cet idéal est assez abstrait, parce qu'il y a des conditions d'existence et de travail et de vie en organisation ou de vie de rendu qui sont là et qui vous rappellent qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Enfin, quand on est dans une situation de créativité sous forte pression, il faut examiner avec soin les conditions requises pour l'obtenir. Je l'ai examiné. J'en tire une observation et une application. L'observation est sur la question des contraintes. J'ai déjà abordé ce point pour rappeler que sans contraintes, il n'y a pas de création possible. Je l'ai dit tout à l'heure, la liberté des choix est infinie. C'est le problème de construire les contraintes de manière optimale qui est essentiel. Je reviendrai sur ce point-là dans la deuxième année du cours, ou la seconde, si je n'en fais que deux. sur ce sujet. Mais c'est un argument qui est développé à la fois par Jon Elster dans le livre que j'ai déjà cité, Ulysses Unbound, ou d'abord Howard Baker dans Les mondes de l'art que j'évoquais. Et il a une incarnation très précise. Mais ces contraintes sont de tous ordres. Elles sont à la fois externes et internes. L'autre point, c'est l'application de ces idées au domaine des arts. Il se trouve que, sans citer du tout ce genre de travail, les auteurs de l'enquête sur les temporalités du travail ont un chapitre de leur livre sur la question de l'urgence, le sentiment de l'urgence et sa gestion et l'apprentissage de sa gestion. Et ici, vous avez des résultats que j'ai extraits de leur ouvrage qui vous donnent ce qu'est ce sentiment d'urgence en fonction d'un certain nombre de variables. La variable ici, c'est est-ce que je suis artiste à plus de 75% de mon temps ou moins, et du fait de la multi-activité, etc., en termes de quantité de travail allouée à la tâche vocationnelle ou à la tâche noyau, comme je l'ai appelé. Et ici, c'est est-ce que je me sens pressé tous les jours, régulièrement. C'est du déclaratif, ça n'est pas un carnet de journalier. Même s'ils ont recueilli des semainiers ou des calendriers d'activités pour certains individus, ils ne leur ont pas demandé de tenir un journal quotidien, comme l'ont fait les enquêteurs ou les chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous voyez que plus on est ancré dans le métier ou dans l'activité vocationnelle, moins on se sent pressé. Mais néanmoins, on a régulièrement ou tous les jours, on est quand même à 78%. Donc le sentiment de pression, d'urgence, il existe, mais il peut être modulé. Ici, quand on débute ou quand on est faiblement ancré dans la profession, c'est-à-dire qu'on rame pour y rester, évidemment, le sentiment d'urgence, il est beaucoup plus fort parce que les tâches annexes tapent à la porte et vous hachent votre temps de travail. C'est exprimé d'une autre manière ici, dans cette variable que j'ai déjà présentée, c'est-à-dire quelle est la part de votre activité de création par rapport au temps total de la création. Vous avez vu que le temps de l'activité noyau peut être complexe. Il peut comporter l'administration. Ici, c'est quand ce temps de création il est dominant. Et donc, la pression, elle est moindre parce que, effectivement, les plages de temps consacrées sont plus longues, etc. Quand l'administration de votre travail vous prend du temps, parce que vous êtes un jack in all trades, comme j'ai déjà dit, notamment quand on est un indépendant, évidemment, le sentiment de pression augmente, de même quand vous êtes dans l'enseignement, parce que le choc des temporalités, des séries A et des séries B, l'enseignement, il a un côté série B, MacTaggart, hein, pas série B, fiction audiovisuelle, qui vous casse en partie les chances d'avoir cette plage. Et ici, la variable est donnée selon l'âge. Alors, il y a plusieurs aspects ici. Évidemment, quand vous prenez de l'âge, bon, certes, le sentiment d'éternité diminue, ce qui est la mauvaise nouvelle, mais en même temps, vous n'avez plus autant de charges, par exemple, familiales, vous êtes en partie dégagé de ça. Comme disait un compositeur célèbre, la biologie est l'ennemi de la fréquentation des concerts, parce qu'on y va à 20 ans ou 30 ans, à 40 ans, on a charge de famille, et après, on peut reprendre, et quand vous regardez les concerts de musique aujourd'hui, effectivement, le public est assez âgé. Mais il y a d'autres raisons. Ici, donc, le sentiment de pression est moindre, et puis vous avez peut-être fait davantage vos preuves, et vous êtes ancré dans la profession, etc., etc. Alors qu'à 30 ans, à moins de 30 ans, évidemment, la pression pour décoller, pour vous faire un nom, elle est beaucoup plus élevée et aussi les ressources dont vous disposez sont moindres et donc les contraintes sont plus fortes. Il y a aussi un aspect de génération que citent les deux auteurs. Derrière l'âge, il y a aussi le phénomène de génération. Ils contrastent une génération qui est née dans les années 50-60 d'artistes qui ont plutôt une vision bohème de la vie, hein, d'artistes et qui donc savent en quelque sorte négocier les contraintes en diminuant les ressources dont ils ont besoin ou en ayant adopté une attitude d'assez grande flexibilité dans la gestion à la fois mentale et matérielle de leur temps de travail. Et puis la gestion plus récente des artistes qui sont nés dans les années 80, c'est plutôt des artistes entrepreneurs, un peu managers, qui ont donc adopté des techniques de management de leur temps qui sont liés aussi à l'environnement de travail, qui est souvent un travail financé au projet, avec dépôt de projets, etc., etc., et donc de constitution de dossiers. C'était moins le cas autrefois, et maintenant c'est le cas. Et donc, il y a un côté entrepreneur avec management du séquençage des activités, comme disent les deux sociologues, ou du map-minding et des choses comme ça. C'est vrai que ça joue, et effectivement, la temporalité, c'est aussi une affaire de dans quelles conditions et quelles ressources disponibles, quel système d'aide, etc., etc., quelle offre de projet existe et quelle demande existe. Tout ça fait partie de la définition. Alors, je vais finir sur ce point, sur la question de l'achèvement. C'est une citation de Monroe Beardsley, donc de l'article que j'ai déjà cité antérieurement. C'est la question de savoir quand est-ce qu'un artiste sait qu'il a fini une œuvre. C'est un problème qu'on va explorer à travers cette citation, mais surtout à travers les réponses des artistes, en l'occurrence des écrivains. Ici, c'est le problème général. Je ne les détaille pas, mais il cite par exemple le cas de Valéry, dont pour son célèbre poème « Le cimetière marin », on lui a arraché. L'histoire dit qu'on lui a arraché littéralement parce qu'il ne voulait pas le finir, il ne voulait pas le lâcher. Il voulait encore y travailler. Et l'éditeur ou un ami l'a pris, a dit « ça suffit, je le prends » et il a été publié par l'éditeur de la revue. Et l'argument de Monroe Beardsley, c'est de dire « non, la question mérite d'être décomposée en deux. Quand est-ce que l'artiste sait s'il est fini, en quelque sorte épuisé, rincé par ce qu'il a fait, il est fini, quoi. En gros, ça y est, j'en peux plus. Et l'autre argument, c'est quand est-ce qu'il peut dire que l'œuvre est finie, c'est autre chose. Vous avez compris que si on fait corps avec son œuvre dans des expériences immersives, il y a peut-être un moment où les deux vont devoir se séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'œuvre va vouloir vivre sa vie et l'individu va vouloir peut-être reprendre un peu le contrôle sur sa temporalité. Et c'est cette manière de décrire cette question de comment achever une œuvre. C'est comment être achevé par l'œuvre. C'est la première version possible. Et l'autre, c'est comment l'œuvre peut-elle être achevée par moi qui suis moi-même intact et complet. Et donc, pour répondre... pour tester cette idée, je dois la référence que j'ai ensuite été explorée, mais je dois la référence à Frédéric Patureau, une collègue qui travaille au département des études du ministère de la Culture, qui avait fait une thèse magnifique sur le Palais Garnier entre 1875 et 1914, qui est historienne, mais qui est aussi sociologue. Et elle m'a mis sur la piste d'un livre et elle m'a aidé à partie à explorer la matière des réponses auprès de 31 auteurs dans un livre qui s'appelle « Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?» Bon, en fait, la maison d'édition est dirigée par deux des personnalités qui sont interrogées ici. Ce sont deux écrivains. L'édition s'appelle « Monstrographe ». Et l'ouvrage se trouve sur Internet, mais pas dans les librairies. Et l'enquête a été faite sur 31 auteurs et on leur a posé la question, parmi d'autres questions, « Quand sais-tu qu'une œuvre est achevée ?» Et donc, je vais vous présenter et commenter brièvement les réponses qu'avec ma collègue Frédéric Patureau, on a ordonnées en plusieurs catégories. D'abord, on peut remettre en cause la notion d'achèvement. Si vous avez la mémoire assez complète, donc si vous êtes dans un temps A d'écoute du cours, vous allez vous remémorer un certain nombre d'éléments que j'ai disposés tout au long du cours pour interpréter ces réponses. Et elles feront sens en fonction de tout ce que vous aurez pu retenir. D'abord, on peut remettre en cause la notion d'achèvement, parce que le propre de ce travail, c'est sans cesse d'être remis sur le métier. C'est ce que dit, par exemple, Audrey Alvette, une écrivaine. Ce sont des écrivains qui sont certains romanciers, certains ont écrit de la littérature pour enfants, de la littérature pour adultes, d'autres ont une activité d'écrivain et aussi de scénariste ou de musicien. Donc, on ne va pas prendre simplement les derniers prix Goncourt. Les 31 auteurs interrogés appartiennent à des catégories d'activité et des catégories de notoriété très différentes. Et donc, tant mieux, je ne fais pas en ce moment une analyse de corrélation entre réputation et type de réponse, je regarde la matière des réponses. Et ceux que je cite ici ont des notoriétés assez différentes, donc, et pourtant les réponses convergent assez bien. Elle dit « J'ai toujours envie de retoucher mes livres, même quand je relis un bouquin publié depuis longtemps, je me retiens de refaçonner certaines phrases, de les nettoyer de quelques mots. Je suis comme un chien incapable de lâcher son os. À ce moment, je suis obligé de prendre la décision de m'arrêter, sans quoi je continuerai indéfiniment. » Une collègue, Amandine D, dit, qui est aussi comédienne, « Je crois qu'il y a deux fins. La première, c'est lorsque j'ai porté le texte le plus loin que je pouvais, quand j'en suis fier et fatigué. Je ne vois plus à force de le relire. J'ai alors besoin des autres, vous vous souvenez de ce que disait Becker, pour m'approcher du texte à nouveau et le terminer. La deuxième fin, c'est donc quand le livre est prêt et que je l'ai travaillé avec mes éditeurs, on l'a peaufiné, on l'a interrogé. C'est important pour le texte, mais aussi pour moi, parce qu'il me rend plus armé, mieux capable de le défendre et d'en parler. Donc, je ne peux plus à force d'eux, mais à un moment donné, je dois me le faire arracher. Ici, vous avez d'autres réponses qui vont dans le même sens. Neil Jomunsi, qui est écrivain, « Quand je n'arrive plus à modifier quoi que ce soit sans avoir la sensation de casser quelque chose, tant que j'arrive à améliorer, je continue. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perpétuellement améliorer. Parfois, c'est juste que je ne m'en suis plus capable. Donc, il y a cette espèce de rendement décroissant de l'effort. C'est un schéma qu'on pourrait tracer pour toutes sortes d'activités. Il y a un rendement décroissant de l'effort. Le problème est de savoir quand j'atteins le point d'inflexion où « more is less » au lieu de « less is more ». Bon, et de manière plus concise, est-ce qu'une œuvre est jamais achevée ? Ensuite, il y a l'inadéquation du vocabulaire de l'achèvement. Ça, c'est une attitude que les artistes ont pris, notamment depuis le XIXe siècle, c'est de dire l'unité significative, ça n'est pas l'œuvre, c'est le processus entier de création et peut-être même le processus complet d'une œuvre à l'autre, etc. Et qu'est-ce que ça donne de la part de quelqu'un qui est dessinateur de BD et qui fait aussi de l'illustration ? Il y a des fantômes, il y a un moment où ça sort. La plupart du temps, je ne vois pas comme un commencement et une fin. Il y a une somme de choses qui s'enchevêtrent. Ensuite, je le mêle ou l'en mêle encore plus. Je peux dire quand je commence tel projet, mais généralement, je vois ça comme une suite de constructions en cours. Ça fait partie de différents ensembles. Ces constructions sont plus ou moins achevées quand je me dis qu'elles peuvent être prolongées par quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette idée d'une architectonique, mais qui est plus large qu'un simple projet. Ou alors Thomas Vino qui dit « Je n'utilise pas le mot œuvre, plutôt projet. J'en ai fini quand le bidule retombe sur ses pattes et qu'il me sort par les yeux. » Bon, et là, c'est l'argument des contraintes externes dont on a déjà parlé. Cet auteur est à la fois auteur et traductrice, donc ça vous donne aussi une idée des activités extra-créatrices que réalisent ces écrivains. Quand j'arrive au bout de mon synopsis, ensuite on donne à l'éditeur et on sait que c'est achevé quand on arrive à la fin du rituel des corrections, des retours, des épreuves. Je suis assez matérialiste dans mon approche du livre, il y a des délais à tenir, donc l'œuvre s'achève quand ils arrivent. Si le livre est réimprimé, on peut continuer à le réécrire un peu. Ça, c'est une des modalités de révision possible, donc on joue autrement. Mais ça, c'est un luxe et une chance, pas une norme. Donc, elle, c'est pro. D'ailleurs, elle est assez productive. Bon, là, vous avez aussi le même genre de situation, et notamment dans le monde du cinéma, un scénariste et réalisateur qui insiste beaucoup sur le fait que dans le cinéma, on travaille autrement. Ça a beau être compliqué, mais il y a des moments où il faut évidemment se tenir au plus proche des contraintes externes et agir. Ici, c'est l'argument dont les psychanalystes ont fait leur miel, c'est l'argument de l'épuisement ou de la détestation. C'est-à-dire qu'il y a un rapport émotionnel à l'œuvre, parce que l'envers du flow, c'est éventuellement la détestation. C'est-à-dire que le flow ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Il y a un moment où la collision des temporalités fait que ça suffit. Quand elle me fait chier, c'est ce que dit Justine Niogret, elle pue le cadavre quand elle dure trop longtemps, j'aime les finir vite, avant que ça moisisse, je n'ai pas de douleur à la fin d'un livre. Et dit Pallaro, qui est écrivain et auteur de théâtre, quand je suis fatigué, quand je ressasse, quand je sens que la pièce n'a plus besoin de moi. Voilà. Et donc c'est ce thème de l'objet doit se détacher. Vous trouverez dans un livre de Didier Anzieux qui s'appelle « Le corps à l'œuvre », un psychanalyste, de très très jolis développements sur ce sujet. Là, vous avez d'autres témoignages de cet ordre-là, la détestation, j'en ai tellement marre que je l'abandonne. Donc il y a une fatigue, en quelque sorte, et c'est un des signaux. Il y a une variante qui est intéressante, c'est le « satisficing », comme on dit. C'est-à-dire, au lieu de rechercher la perfection, je me contente de ce que j'ai. Autrement dit, j'en ai marre de chercher la perfection ou à améliorer. C'est ça l'épuisement. Au lieu de continuer sans arrêt à espérer encore mieux, je vais me dire ça suffit. Maintenant, je me satisfais de ce que j'ai eu. Vous savez que cet argument est au cœur de la discussion critique que menait Herbert Simon, un prix Nobel d'économie, pour critiquer l'argument de la rationaliser optimisatrice ou maximisatrice, en disant ce dont on a besoin, c'est le critère de satisfaction. Je ne vais pas chercher éternellement mieux, un meilleur produit, une meilleure recette, etc. J'ai besoin de quelque chose qui me satisfasse. Et un point, c'est tout. Et à ce moment-là, ça va. L'argument a un poids certain. Là, vous avez la réponse qui, en quelque sorte, met en jeu ce que j'ai dit sur qu'est-ce que c'est que travailler sur la forme. Travailler sur la forme, c'est travailler à trouver des équilibres. Voilà, et c'est ce que disent des auteurs qui font des choses très différentes, des romanciers, des photographes, des peintres, une illustratrice. Et c'est le thème, Picasso le disait d'une autre manière, quand rajouter quelque chose ferait tout basculer dans le futile, l'anecdote, c'est-à-dire le détail de trop, more is less, ou less is more. Et donc, elle est achevée avant qu'on commence à essayer de peaufiner inutilement. Donc, tant que j'arrive à améliorer, je continue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perpétuellement améliorer, c'est juste que je n'en suis plus capable. Donc voilà, c'est cet auteur que j'ai déjà cité ailleurs. Quand je suis allé trop loin, quand ça s'est tu. Voilà, c'est cet argument de, il y a une sorte d'équilibre. Quelle est exactement la rationalité ou la production de l'évaluation qui conduit à ce sentiment d'équilibre ? C'est évidemment un sujet qu'on a traité, mais qui ne se met pas en équation simple. Et puis... il y a ce thème de « j'en ai fini avec l'œuvre, mais c'est parce que l'œuvre en a fini avec moi », c'est-à-dire que l'œuvre est devenue un objet autonome, j'ai le sentiment qu'elle est complète, qu'elle existe par elle-même, elle n'a plus besoin de moi. C'est parfois difficile de résister à l'envie d'améliorer et de calmer mes penchants perfectionnistes. Donc c'est une tension, c'est une bataille, mais à un moment donné, l'œuvre va gagner la bataille puisqu'elle va dire « voilà, maintenant j'existe, ça suffit ». Et puis, ici, c'est l'argument, je résume les derniers, c'est qu'on a épuisé, c'est un des sujets que j'ai évoqués, le potentiel d'apprentissage que me procure l'œuvre. L'œuvre m'apprend quelque chose. À force d'y travailler, j'apprends quelque chose à travers elle. Et à un moment donné, ça suffit. Le territoire n'a plus de secret pour moi et j'ai besoin d'en aborder un nouveau. Autrement dit, on a fait le tour de la question, d'une certaine manière, parce que je n'apprends plus rien. Et l'œuvre ne me dit plus ce que je peux apprendre d'elle. Et... on peut contester tout simplement la question en disant qu'elle n'a pas beaucoup d'importance parce que le résultat est certain, ce qui est une réponse assez minoritaire, ou même très minoritaire, ne vient qu'une fois de la part d'une traductrice qui est aussi écrivaine, mais surtout traductrice. Maintenant, quand je commence une œuvre, je sais que le livre sera achevé, il a déjà une fin, après c'est juste une question de temps. Donc on peut évidemment conseiller l'algorithme qui fera le travail. Et puis ici, on a joué sur tous les tableaux. Un écrivain qui est aussi avocat. J'accomplis deux types d'œuvres, des livres et des dispositifs. Un livre est terminé lorsque mon éditeur est satisfait, donc on revient à la case précédente. J'ai une confiance en lui, etc. Les dispositifs, en revanche, ne sont jamais achevés. J'aurais, je crois, un plaisir à les voir se solidifier d'une manière ou d'une autre, même si cela n'aurait finalement pas beaucoup de sens. Donc, voilà, c'est peut-être l'atelier et les réserves de matériaux qui peut-être servent à écrire les livres du premier type. Et François Bon, qui est un écrivain qui est probablement le plus connu de toute la liste, qui est à la fois écrivain mais aussi professeur d'écriture en école d'art, photographe, vidéaste, c'est quelqu'un qui est connu aussi pour avoir un site internet, je vous recommande d'aller le voir. C'est un lieu de dépôt pour les textes finis, pour les ébauches, mais aussi tous les textes de rodage. Et en somme, il a essayé de constituer sur Internet une sorte d'œuvre somme qui est ouverte, unique et mosaïque, je cite ces termes, pour travailler à une seule arborescence indéfiniment remodelable. Donc on joue avec toutes les variables possibles du caractère processuel de l'œuvre, mais il a aussi écrit beaucoup de romans. Et voilà ce qu'il écrit pour occuper à peu près toutes les positions dans la liste des modalités de la réponse que j'ai évoquées. Je crois que mon plus grand bonheur sera d'avoir connu depuis quelques années la possibilité effective qu'une œuvre puisse être remaniée et rouverte en permanence. Donc il fait allusion à ce fameux site que je viens d'évoquer. Et mon plus grand malheur, que 30 ans de mes livres sous contrat d'éditeur ne puissent en faire partie. Autrement dit, ce que je fais sur mon site, c'est ce que je n'ai jamais pu faire dans la réalité. Et voilà. Et donc, il occupe toutes les cases. Je finis en très peu de mots pour vous donner ma conclusion. J'ai étudié certaines propriétés du processus de travail, l'intensité et sa signification particulière, la teneur formatrice du travail, le degré d'autonomie et de pression dans le travail, des contraintes de temporalité multiples, associées ou télescopées, et la dynamique processuelle du travail qui n'est ni propulsive ni finaliste. Dans le second cours que je consacrerai à cette question de l'achèvement, j'étudierai à la fois la variété des comportements en fonction de la nature des œuvres qui sont entreprises des grands ou des petits projets ne sollicitent pas les mêmes comportements. Mais aussi, je procéderai à une série d'études de cas en musique, en littérature, en peinture, en sculpture, en architecture. Et dans ce cas-là, je ne remonterai pas simplement en amont du résultat à l'œuvre, mais j'irai aussi en aval pour savoir comment l'œuvre se transforme une fois achevée du fait de multiples interventions possibles, éditoriales, interprétatives, restauratrices, etc., et du fait de multiples imputations de signification. Après tout, le lecteur ou le spectateur, lui aussi, travaille à achever les œuvres.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Pierre-Michel Minger, « Comment achever une œuvre ?» Aujourd'hui, processus, typologie et cas, conclusion provisoire. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé l'ouvrage collectif « Le talent en débat » au PUF en 2018. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous ne quittons pas le monde du travail créateur, mais nous serons entre cinéma, mémoire et politique en compagnie du réalisateur et auteur Amos Gitaï pour sa leçon inaugurale au Collège de France. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.